7h17, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors, on commence ce matin par les salaires des PDG. Ça peut se promener entre 10 à 300 fois le salaire moyen.
Oui, les grands PDG du Québec ont une rémunération très variable. C'est un article de Stéphane Roland des Affaires qui nous souligne cette fin de semaine. Premièrement, en 2017, le salaire moyen était de près de 46 000 $ au Québec. Et le PDG moyen des grandes entreprises a vu son salaire bondir de plus de 12 % en un an, tandis que le salaire moyen des Québécois a eu une hausse de 3 %.
Quand tu dis le salaire, là, ça veut dire que tu inclus tout, là, les
tout,
primes, les bonis.
Toute la rémunération variable.
Okay,
évidemment, je parle pas de leurs actifs personnels. Là. On parle de leur rémunération pour l'entreprise.
Non. Okay.
Si avec, par exemple, 3-4 millions, ils ont acheté un chalet qu'ils ont vendu à gain et tout ça, ça rentre pas dans la rémunération. On ne les connaît pas, c'est privé. On va aller voir, évidemment, le meilleur au niveau de l'investisseur, c'est Stan Limba. Stan Limba, c'est le président du groupe MTY qui se dit « Moi, je me paye si mon entreprise monte en valeur, je me verse pas un salaire plus élevé que j'ai besoin, je vais me verser, moi, du gain sur mes actions, je vais le garder dans l'entreprise. » C'est pour ça que son salaire est faible. Lui, il est juste payé 9,8 fois le salaire moyen. C'est comme le raisonnaible de la gang, c'est le 450 000, tu comprends? C'est un gars moyen. Mais tu sais qui est le mieux payé au Québec?
Non.
Devine. Le président de Bombardier, Paul.
Ah ben oui, c'est sûr.
Et oui, 300 fois le salaire moyen. Parce que tu sais qu'à 286 fois, c'est la faillite. Tu sais, à 300 fois, tu te dis, bon, là, je vais peut-être arriver cette année. Mais à 275 puis 286, tu sais, le beurre de peanut, t'es obligé d'acheter la marque maison. Puis, tu sais, ton jet, t'es obligé d'acheter autre chose qu'un Bombardier. Tu sais, non, je blague, mais tu sais, ce qui est drôle là-dedans, c'est que l'entreprise a perdu 553 millions de dollars américains en 2017. On a donné la C-Series, on a baissé les coûts, on a coupé des jobs, on n'a pas fait décoller les ventes de C-Series. Malgré tout, ton président, c'est le mieux payé des grandes entreprises canadiennes en salaire moyen. On parle d'une rémunération canadienne d'environ 13 millions de dollars, Paul. 13 millions.
Par année.
Même Carey Price fait pas ça, Paul.
Non, mais c'est parce que, en tout cas, regarde, moi j'ai une philosophie là-dessus parce que... Je lisais l'autre jour un truc, là, c'est qu'aux États-Unis, parce qu'il y a eu, on voulait relier le salaire du PDG, la rémunération du PDG au rendement de l'entreprise. Tu sais, ça me semble que ça devrait être ça aussi, là.
Ben, moi, en fait, ça serait un multiple du salaire moyen de tes employés. C'est-à-dire, si tes employés montent de salaire, tu dis, moi, là, je vais topper ma rémunération à 100 fois le salaire moyen de mes employés. Comme ça drainerait une bonne idée. Je te donne un exemple. Si t'es bien riche parce que le salaire moyen de tes employés, tes exploits dans une sweatshop en Inde ou en Bangladesh, ben tu vas être mal payé. Et si t'es PDG d'une entreprise qui a permis à ses employés de monter de conditions salariales, ben tu vas être mieux payé. Donc, ça peut être 100 fois le salaire moyen. Mais tu démontreras à l'actionnaire et à la société qu'il y aura une corrélation entre la plus-value que tu apportes à la société aux conditions de travail de tes employés et ton salaire. Parce que si ton salaire se gagne au détriment de la perte de salaire des autres, tu es en train de faire de l'arbitrage financier sur le dos des gens qui te permettent de gagner de l'argent.
Non, mais m'a donné un exemple. Là. Le patron de Dollarama, on s'entend qu'il paye les gens au salaire minimum. Là.
Oui, oui.
Puis chez Couche-Tard, c'est la même chose. Ça veut dire
exact.
Que si tu fais un multiple du salaire des employés, alors que chez Bombardier, le salaire est nettement plus élevé.
Oui, mais tu mets un salaire par entreprise, c'est-à-dire tu dis « OK, on va faire un prorata ». Tu sais, on va dire « Donc, c'est 100 fois dans tel type d'entreprise, 90 dans tel type ou 150 ». Puis tu sais, c'est le conseil d'administration qui paye. Et tout ça, Paul, moi, je ramène tout ça à la faute de Scott Stevens. Les gens disent que c'est ça.
Ouais, c'est quoi ça?
C'est le parallèle. Scott Stevens, dans les années 80-90, avait signé un contrat avec le prof Caron au hockey. Et c'était le premier contrat dans mon souvenir qui était élevé et qui avait été publiquement connu dans ma tête là, d'amateur de hockey. Et ça avait créé un effet de dire « OK, maintenant, les salaires vont être connus, on va s'échanger. » Puis là, il y a eu de plus en plus de salaires connus, mais c'est le premier qui a marqué l'imaginaire dans ma tête à moi. Et bien, les PDG, c'est pareil. T'es sur un conseil d'administration, on dit « Ouais, mais regarde le PDG l'autre bord, son salaire est connu, regarde c'est combien, puis lui c'est combien, puis lui c'est combien. » Et il y a une pression à la hausse. Mais est-ce que le président de Bombardier accepterait de travailler dans le même emploi pour 9 millions de dollars? Est-ce qu'on trouverait quelqu'un qui est capable de couper des coûts pour 9 millions de dollars? Je pense que oui.
Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le parachute de sortie. Parce que c'est là qu'on découvre parfois quelques surprises.
Oui, effectivement. Il n'y a pas grand monde qui, quand il sort, se retrouve millionnaire. T'sais, c'est comme acheter un billet de 6,49, mais être sûr d'avoir le billet gagnant en sortant.
Un petit mot sur les finances personnelles. On va parler d'immobilier.
Oui, parce que là, il y a eu des gens qui ont fait de l'argent depuis 2000, évidemment, à cause de la baisse des taux d'intérêt, qui ont acheté aux bonnes localisations et qui ont été un peu chanceux et bons investisseurs, disons-le. Mais ces gens-là savent très bien que maintenant, les taux d'intérêt sont à la hausse. Donc, il y a moins d'argent facile à faire avec l'immobilier et on se rend compte qu'on est comme une espèce d'exemple. Donc, on va commencer à vendre des formations. Et là, beaucoup de gens m'écrivent en me disant, c'est-tu bon ces formations-là? Il y a des gourous qui se mettent sur Facebook des publicités en disant, je vous veux un certificat en immobilier ou comment devenir riche en immobilier. Et dans le fond, on commence à faire de l'argent plus avec l'immobilier, mais avec la vente du rêve immobilier. T'sais, donc, les gens s'en vont là-dedans, ils se font dire des choses comme, ben, ça prend du capital, t'sais, les petites passe-passe à faire, les réglementations, tout ça. Mais c'est pas une formation de quelques jours qui va faire de vous un bon ou un mauvais investisseur immobilier. Ce qui va faire un bon investisseur immobilier de vous, c'est premièrement avoir du cash. Parce que ça prend pour avoir un bon immeuble, ça prend un 20% de mise de fonds pour être capable de miser sur des bons immeubles. 20% de mise de fonds sur 1 million, c'est 200 000. T'sais. Première des choses. Deuxième point, il faut un immeuble qui a une capacité d'augmentation des loyers potentiels, donc un quartier intéressant, et surtout une capacité de voir un gain de plus-value sur l'immeuble. Mais tout ça va être résumé en quelques jours, en des formations et tout ça, mais on peut vous vendre maintenant, ce qu'on veut dire ici aussi, c'est simplement qu'on tente de vous vendre maintenant le rêve de l'immobilier plutôt que l'immobilier lui-même. Donc, vous allez payer quelques centaines de dollars pour vous faire vendre le rêve de l'immobilier. Peut-être que vous serez un jour multimillionnaire de l'immobilier, mais ce sera à coup de sueur et d'investissement plus qu'à coup de « j'ai un titre de formation en immobilier ». Et Paul, rapidement en sortant, je te donne 4 dépenses. Je peux te dépenser le 150 000 facile en immobilier en 3 secondes. Change de toit, change la brique, fonce des pieux, puis change les fenêtres. 150 000. Tu viens de scraper ton investissement immobilier en à peu près 2 semaines. Donc, il y a beaucoup de rêves qui se vendent, mais faites attention à la valeur de votre immeuble parce que la CCQ peut rentrer chez vous si vous mettez le petit doigt à l'intérieur. Vous n'avez pas le droit si vous ne vivez pas dedans. Donc, si vous achetez un quintuplex puis vous dites « Ah, je vais faire les balcons moi-même. » Non, non, non. Le syndicat vous dira que vous n'avez pas le droit, vous aurez une amende.
Merci, monsieur. Bonne journée. Salut, 7h24.